Cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 28 septembre 1995.
Les mathématiques mathématiques sont exclues de la démarche philosophique. Les mathématiques réapparaissent dans l'astronomie, qui sont des sciences subalternées à la physique et qui ne sont pas la physique. Des sciences subalternées, c'est-à-dire des sciences qui, en raison même, l'expérience que nous avons des astres est tellement faible qu'on ne peut pas se contenter de cela. Donc il y a appel à toute une construction philosophique qui fait appel aux mathématiques. C'est aussi très intéressant ça. Et quand Aristote exclut les mathématiques de la philosophie, cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les mathématiques. Il les considère au contraire comme une science d'une noblesse très grande à cause de leur certitude. Il reconnaît au début du De Anima que les mathématiques ont une noblesse très particulière à cause de la certitude, mais pas à cause de l'objet. Ce sont les sciences qui, d'une certaine manière, comprenez bien, sont en plus grande connaturalité avec le conditionnement humain, pas avec l'intelligence séparée, mais avec le conditionnement humain. Notre conditionnement humain est d'être intelligent, rationnel, à cause du lien avec le corps. Les mathématiques, grâce à l'imagination, sont en connaturalité très profonde avec une intelligence qui naît dans l'imaginaire et qui se sert énormément d'imaginaire. Parce que les mathématiques, regardant le possible, ou les possibles, l'imagination donne une espèce d'extension énorme à cette recherche du possible. Il y a donc là quelque chose de très intéressant à voir. Oui, et qui est une recherche historique, particulière. Le problème moderne pour nous, c'est d'essayer de, en fonction d'une reprise de la philosophie, à partir même de notre expérience, de redécouvrir la place exacte de la philosophie de la nature. Oui, il ne faut pas en premier lieu regarder le point de vue critique. Je crois que ça nous met dans une impasse. Ou bien là, on fait ça de façon très extérieure, un peu à la manière de Maritain dans les degrés du savoir. Vous savez, je demandais au père, au frère Frédéric, Marie, de faire dans sa thèse comme une critique des degrés du savoir et une reprise pour nous des degrés du savoir. Je crois ça très important pour nous. Parce que, alors, pour vous actuellement, regardez les degrés du savoir de Maritain. C'est intéressant, mais fait un peu de physique, verront que c'est pas juste, que c'est pas vrai. Ceux qui ont fait de la philosophie, comme nous essayons de la faire, verront que c'est pas vrai non plus. Il y a deux fautes là, à voir. Je n'ai pas le temps de faire cette critique ici, ce serait intéressant, mais ce serait dans un cours critique. Je veux avec vous regarder comment il est nécessaire qu'il y ait une philosophie dite théorétique, spéculative, qu'elle se sépare de la physique contemporaine, dès le point de départ. Si on ne voit pas ça dès le point de départ, on regardera les conclusions et on n'arrivera pas à comprendre. Oui. N'oublions pas que nous essayons de redécouvrir un itinéraire génétique selon l'ordre génétique de la philosophie réaliste. Nous sommes partis de la philosophie de l'activité artistique, c'est-à-dire la philosophie du facere. Il faudrait presque dire ça, hein. C'est la philosophie du facere. Or, le facere est parfaitement facere que dans l'activité artisanale. Cette activité artisanale se développe dans une activité dite proprement artistique, mais qui reste toujours dépendante du facere. Rodin dit ça admirablement quand il dit que l'artiste, c'est toujours un homme de métier. Et donc c'est toujours un homme qui est lié à l'activité artisanale. Le véritable artiste, non pas le fantaisiste, non pas celui qui est dans la pure esthétique, mais qui fait une œuvre parce qu'il est toujours lié à la matière. Et c'est très vrai que quand on regarde aujourd'hui, après tout le point de vue romantique, après tout le point de vue un peu idéaliste de l'art, on voit la renaissance de l'art à partir d'un point de vue qui met très en lumière la qualité de la matière qu'on utilise. Alors, ceci est surtout vrai pour la sculpture, pour l'architecture, mais c'est vrai même pour les arts plastiques, la peinture. Alors, l'activité artisanale met en pleine lumière la coopération du travail de l'homme avec la matière, avec le monde physique. On se sert de la matière. Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est que en grec, boulé est à la fois matière et bois. Ce qui montre bien, c'est un petit signe, qu'au fond, c'est à partir de l'art artisanal du charpentier qu'on a compris la nécessité d'étudier la matière, le bois. De l'étudier pour lui-même, d'étudier cette matière pour elle-même. Parce que dans la philosophie de l'activité artistique, on regarde le bois, on regarde la matière en fonction de l'idéa, en fonction de l'idée que l'artiste possède en lui-même en vue d'une œuvre réalisée à partir d'une matière. Et le choix de la matière se fait en fonction de l'idéa. Alors, la matière n'est pas regardée pour elle-même. Elle est regardée relativement à l'idéa qui commande toute l'activité artistique. Toute l'activité artistique est commandée par l'idéa. L'idéa qui est le fruit d'une inspiration. Inspiration qui peut être mendiée par un modèle qu'on copie, qui est une petite inspiration, qui fait partie de l'herméneutique, de l'interprétation. peut interpréter un modèle. Quand on n'a pas d'idée, le modèle est un soutien et aide. Et nécessairement, si on le copie d'une manière artistique, on le copiera en l'interprétant. Il y a des copies qui sont des vrais œuvres d'art, parce que ce sont des interprétations. Il ne faut jamais oublier ce que c'est que l'herméneutique. C'est une interprétation artistique. On interprète, vous voyez, en musique, c'est constamment ça. L'interprétation joue un rôle énorme. Et certains cherchent en musique les premières interprétations en fonction des instruments dont on se servait. Et l'instrument donnait la matière du son. Et c'est en fonction de la matière du son qu'on essaie de redécouvrir ce que pouvait être l'idée en première. Parce qu'on a glissé d'un instrument à un autre instrument. Toutes les recherches musicales aujourd'hui sont à partir de ça. À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Mais, voyez, c'est en fonction d'une interprétation. C'est pas en fonction d'une idée nouvelle. Elle repose sur un modèle. Ça, c'est une question de philosophie de l'art. Je n'interprète, je dis pas plus, mais il est évident que la matière étudiée en philosophie de l'art n'est pas la matière brute. C'est une matière déjà élaborée et déjà ordonnée à l'idée et à l'œuvre. C'est pour l'œuvre. Et on mettra plus ou moins d'importance à cette matière. Il est sûr qu'au point de vue artisanal aujourd'hui, on redécouvre très fortement le sens de la matière. Puisque en philosophie de l'art, la matière étudiée est étudiée relativement à l'idéa, à l'œuvre. Il y a une place pour découvrir la matière pour elle-même. La matière brute, la nature. La nature non travaillée. La nature telle qu'elle nous est donnée. Oui, donc, et ceci est très important à saisir pour nous après la philosophie hégélienne, de saisir qu'il y a une connaissance pratique de la matière. Il y a une connaissance spéculative de la matière. Et je crois que c'est la première chose qu'on doit faire quand on regarde la philosophie de la nature. Vous voyez, ce n'est pas l'affrontement premier avec la physique moderne. C'est l'affrontement premier avec Hegel. Dans la position hegélienne de la dialectique, il n'y a plus de distinction entre connaissance pratique et connaissance spéculative. Par le fait même, il n'y a qu'une seule connaissance, une connaissance dialectique. Et c'est pour ça que l'hégélianisme implique un cheminement dialectique qui va jusqu'à la dialectique de l'esprit. Mais avant la dialectique de l'esprit, il y a une connaissance dialectique de la matière, de la logique, pour arriver à la connaissance dialectique de l'esprit. Alors, comment échapper à cette connaissance dialectique de la matière? C'est de comprendre que la matière dont se sert l'artisan, l'artiste, est une matière qui existe en elle-même avant que l'artiste l'interprète, la transforme. Il y a une nature qui est antérieure à l'art. L'homme, dans son activité artistique, présuppose toujours cette nature. Elle lui est donnée. Et quand vous dialoguez avec des artisans, il faut dialoguer avec des artisans. Quand vous, et si vous l'êtes vous-même, on peut être artisan de telle façon. L'artisan a un sens de la matière. Très beau. Tous les artisans ont ça. Un sens du bois. Un sens du fer, du cuivre, de l'or, de l'argent. Un sens des matières précieuses. Et un sens de ce qu'on appelle la matière. Non pas du vivant, mais ce qui est antérieur au vivant. Ce qui est radical. Et c'est cette connaissance de la matière, de la nature matière, qu'il faut découvrir en premier lieu, comme une connaissance qui n'est plus celle de l'artiste. Pourquoi ? Parce que on regarde la matière. Le granit, la pierre, l'argile, la terre, pour lui-même ou pour elle-même, et non pas en fonction de la transformation qu'on donnera à cette matière. Très curieux de voir que tout de suite les artisans qui ont du métier tout de suite regardent la matière non transformée par l'art encore comme tout de suite comme quelque chose qu'on pourra transformer. Oui, c'est comme la déformation des médecins, des psychanalystes qui, dès qu'ils voient quelqu'un, voit tout de suite les limites ou sa fragilité. À ce moment-là, l'art médical, la psychologie, peut être un obstacle terrible à l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, regardez l'homme, la femme, telle qu'elle est. Et vous l'aimez telle qu'elle est. Tandis que, si vous la regardez en psychanalyste, en médecin, vous regardez ce qui, dans cette personne, peut être modifié ou demande d'être modifié. Parce que dans votre regard psychanalytique, vous voyez tout de suite les complexes. Vous voyez tout de suite les nœuds. Vous voyez tout de suite ce qui, dans sa conduite, n'est pas entièrement humain, implique certaines répétitions inconscientes. Vous découvrez l'inconscient. C'est ça qui vous intéresse. Mais vous comprenez très bien que ce n'est pas la connaissance de la personne. C'est la connaissance d'une matière transformable par un art. La psychanalyse est un art. Un art archéologique pour chercher les déviations qui ont eu dans notre vie. Chercher les fausses pistes dans lesquelles on s'est engagé. et qui arrête et empêche le développement. Alors il y a un prisme sur lequel on regarde les gens. Et on ne les regarde plus pour eux-mêmes. C'est très visible, ça. On a tous fait cette expérience-là, et si on ne l'a pas faite encore, vous la ferez. C'est pour ça que vous évitez souvent, quand vous avez quelqu'un que vous aimez bien, c'est en psychanalyse que vous demanderez des renseignements. Vous demanderez à des amis. Vous n'êtes pas en psychanalyse tout de suite, il vous mettra devant les défauts. Et si il est suffisamment influent sur vous, cette mise en lumière des défauts vous empêchera d'aimer cette personne. Parce que je ne peux pas aimer les défauts. Et si ces défauts sont montrés comme monstrueux, prenant tout, vous ne pourrez plus. Très curieux ça. Vous voyez, bien, il y a quelque chose d'analogue entre le regard de l'artisan sur les matières qu'il fréquente et le regard de l'homme philosophe qui veut connaître ce qu'est la matière pour elle-même. Et donc, on revient à l'expérience. Quelle est l'expérience type qui me permet de connaître la matière? Indépendamment du regard de l'artisan. Au-delà du regard de l'artisan. Comme une expérience plus fondamentale. Comment je connais la nature? Comment je connais la matière? Je la connais à partir du mouvement. C'est le mouvement. Ceci ému de telle manière, de telle autre manière. C'est cette expérience fondamentale de la réalité en tant que mue, en tant que corruptible, qui me permet de m'approcher de la connaissance de quelque chose. Voyez, tout à l'heure, on voyait comment toutes nos expériences sont des expériences du devenir. C'est vrai. Donc je reviens là-dessus. Et tout à l'heure, je montrais le dépassement de cette expérience du devenir par le jour d'existence. Ici, je ne montre pas le dépassement. Je regarde au contraire cette expérience d'une réalité mue. Quand je dis ceci est mu, n'importe quoi. Donner un coup de pied dans un caillou, c'est mu. Le petit caillou a été le foot. Lequel vous avez donné un coup de pied? Vous regardez une montagne, un roc. Ceci est mu. Oui, l'érosion. Il a par lui-même une stabilité. Mais il y a de l'eau qui coule sur lui. Alors il est bien lavé. Il est un peu trop lavé. Alors ça s'use. Lentement, ça s'use. C'est très curieux, l'érosion. Ça fait partie d'expérience de la nature. Une côte extrêmement déchiquetée, comme la côte de la Grèce. C'est vrai, quand vous regardez la côte de la Grèce, vous voyez une côte extrêmement déchiquetée. Quand vous regardez la côte des Cyclades, vous voyez combien c'est déchiqueté. Ça a donné connaissance à une nature qui est mue par une autre nature. L'eau, l'érosion, qui est mue par le vent. Une autre nature, qui est laminée par le soleil, une autre nature. Vous lavez par l'eau, vous purifiez par le vent, vous purifiez par le soleil. Tiens, tiens, c'est curieux. Trois influences sur les réalités que je peux constater. Avec du c'est des réalités mues. Donc la notion du temps intervient tout de suite. Vous ne pouvez pas vous abstraire du temps quand vous faites l'expérience de ce qui est mu. Et vous voyez que ce qui est mu de diverses manières et sous l'influence de trois facteurs actifs par rapport à cette pierre, par rapport à ce sable, par rapport à cette argile, par rapport à cette craie. C'est très curieux. Si vous êtes un peu attentif, voyez ça tout de suite. C'est mu. Phénomène d'érosion de l'eau, phénomène du vent, phénomène du soleil. Vous constatez ça tout de suite. Bien, cette constatation vous conduit à connaître ce qui est mu. Ce qui est mu passe toujours d'un premier détermination, d'une première qualité à une autre qualité. Phénomène d'érosion. Mais quand vous regardez le Christ en bois, au cœur, il y a l'œuvre de l'artisan. Il y a l'œuvre de l'érosion. C'est un Christ qui a été abîmé, ou mu, transformé par l'érosion, par le soleil, par le vent. Vous ne pouvez pas discerner. Oui, vous pouvez discerner les traits anciens. Certains sont restés, mais aucun n'est resté intact. Pourquoi ? Parce que la matière dans laquelle était fait ce Christ n'était pas une matière suffisante pour résister. Une matière friable. Et elle a résisté cependant. Et il y a ce phénomène particulier d'une forme qui jaillit là. C'est pas du tout une forme artistique voulue par quelqu'un. C'est une forme naturelle. Et vous arrivez à discerner ce qui est forme naturelle d'une forme artistique. Quelquefois, vous dites, très difficile, l'érosion c'est une forme naturelle qui peut donner lieu à une forme artistique étonnante. Mais qui n'est pas une forme artistique, qui est naturelle. Mais vous l'imaginez comme artistique. Tellement c'est puissant. Vous voyez, à partir de là, que cette expérience type, c'est mes premières expériences, c'est l'expérience les plus fondamentales, celle-là, où j'ai l'expérience d'une qualité dans telle matière. Et je vois que cette réalité est mue d'une qualité à une autre qualité. La figura est une qualité. C'est la qualité liée à la matière, à telle matière, la figura. La figura implique des couleurs. Ah, alors vous distinguez des qualités communes. La figura, le mouvement. Et puis des qualités propres. Et votre expérience porte sur les deux. Et ce sont les deux, ensemble, qui me montrent la transformation d'une matière par l'ouragan, par le mouvement, par les réalités propres. Vous voyez, c'est très complexe l'expérience que je fais de la matière. C'est une expérience très riche et très fondamentale. Et j'ai cette expérience-là. Et je peux faire cette expérience de multiples manières. Entre ce que représente l'expérience d'un objet taillé par l'homme, une expérience d'une réalité transformée par l'art, une expérience d'une réalité transformée par la nature. Tu as deux expériences différentes. Or, je constate tout de suite que l'expérience artistique est seconde comparativement à l'expérience d'une œuvre matérielle première, d'une œuvre naturelle première. Je disais la dernière fois, n'est-ce pas, ce que Valérie montre dans Monsieur Test, ce que Valérie a été très très saisie par ça. Et c'est là où on voit très bien que chez lui, il y a un sens très fort de l'art, comme distinct de la nature, et lié à la nature. Tout art est lié à telle ou telle nature, à telle ou telle matière. Et il y a, avant la transformation artistique, il y a une donnée que je peux saisir, et que je saisis de deux manières. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir dans cette expérience. Je la saisis dans ses qualités propres. Je la saisis dans ce qui, en elle, est transformable, avec la notion du temps. Ce qui, en elle, est corruptible, si vous voulez. Parce que la matière brute est toujours corruptible. Il n'y a que la matière vivante qui peut triompher momentanément du temps. Le vivant, c'est toujours un victorieux du temps. La naissance d'un vivant, c'est la victoire à l'égard du temps. Philosophiquement parlant, c'est ça le vivant. Il est victorieux du temps. C'est pour ça qu'il est toujours un peu fanfaron. Le vivant est toujours un peu fanfaron. Je l'ai. Vous voyez ça dans le macadam. Quand vous voyez une fissure dans le macadam et une petite pousse qui pousse. C'est extraordinaire. Cette petite pousse, elle est victorieuse. Ce qu'elle est victorieuse à l'égard du macadam. La victoire du petit David à l'égard de Goliath. Tout ça. Et dans notre monde d'aujourd'hui, ça nous fait quelquefois une grande émotion de voir ça. De voir quelle est la victoire d'une petite tige fragile, d'un petit vivant, une vie végétative, très fragile, à l'égard de ce poids terrible du macadam. Donc, saisir, voyez, et c'est ça que je crois qu'il faut saisir, saisir ce qui, de fait, est radical au-delà de toute transformation humaine. Et je le saisis de deux manières, par la qualité et par le mouvement. Et cette qualité, elle est naturelle. Et l'artiste est obligé de reconnaître qu'elle est naturelle. Et dans les découvertes des artistes d'aujourd'hui, on essaie de reconnaître les qualités naturelles et des qualités artificielles. Je voyais l'autre jour, ici, un Italien merveilleux qui a passé toute sa vie dans les fresques et qui veut découvrir, qui recherche la couleur dont on se servait pour les fresques, la couleur naturelle. Pas chimique. L'horreur qu'il a du chimique. Parce qu'il veut trouver le naturel. Il veut trouver les encres qui sont de la nature et qui ne sont pas faits artificiellement. Il veut découvrir les bleus qui sont faits par la nature. Et il y a ce souci archéologique, mais qui au fond est un souci naturel. Chez l'artisan, quelqu'un qui fait des fresques est très artisan. Il a le sens de la matière. Et c'est très intéressant de parler avec lui. Parce qu'on voit tout de suite le sens de la matière. Donc, vous voyez, il y a là une découverte qui s'impose à nous. Si nous ne l'avons pas faite, faisons-la. Et elle est très importante. Découvrir le support radical, fondamental de toute œuvre artistique. sont les deux expériences qui me permettent de découvrir ce qui échappe